Bonjour, ici François Nardou de Montcuq depuis les studios du Boulevard. Aujourd'hui, en ce beau mois de février, particulièrement ensoleillé, avec des nuits froides et des journées chaudes, j'ai envie de vous parler non pas du temps qui passe, mais de celui qu'il fait. J'ai sous-titré ça Petites histoires de météo, avec l'assistance involontaire de Louis Vignolles des Grottes de Roland, qui m'a raconté quelques bricoles sur ses propres observations de la météorologie locale autour de Montcuq. La bibliographie est assez conséquente, je peux la communiquer à ceux qui en auraient envie, mais il y a des ouvrages de géographie physique, climatologie, tradition, ethnologie, mythologie, enfin beaucoup de logis. Alors vous savez que février, il y a un proverbe bien connu, que mieux vaut loup au troupeau que mois de février trop beau, ce qui cette année semblerait particulièrement s'appliquer peut-être. D'autres proverbes nous disent que la neige de février vaut du jus de fumier, c'est un excellent engrais comme apport d'azote. En nos pays d'oc, on vous dira, je me souviens de l'avoir souvent entendu étant enfant, la neige de février tient pas maïque d'aigo dans un panier. La neige de février ne tient pas davantage au sol que de l'eau dans un panier. On vous dira même que la poule l'emporte avec son pied. Disons que les observations recueillies auprès de différents témoins du temps et dans nos régions du bassin aquitain, depuis le seuil du Poitou jusqu'aux Pyrénées, me ferait dire qu'on considère qu'il vaut mieux un mois de février pluvieux, froid, sombre, plutôt que beau. Du reste, il y a un proverbe, mais qui concerne janvier, qui nous dit que janvier d'eau chiche fait le paysan riche. Il faudrait donc que, comme l'on dit chez mon père, en Charente, en Angoumois, en Cognacais, février remplit les fossés, mars les cure, c'est-à-dire mars les assèche. Ce qui semblait être la promesse pour les agriculteurs du bassin aquitain d'autrefois d'une bonne année agricole aux riches et abondantes récoltes, c'était, comme me disait une de mes voisines originaire de Creissens, paroisse de la commune du Boulve, Mars pulverus, abrial plexus, mai rujadu, tutti stress fan rupatse surus. Mars poudreux, poussiéreux, chaud et sec, ensoleillé, avril noyé de pluie, mai riche en rosée, font le paysan heureux. Donc les différents proverbes nous enseignent que ce mois de février est un des mois clés de l'année agricole. Les observations de février sont déterminantes pour l'année qui vient. Vous connaissez celui sur la chandeleur, dont j'ai peut-être déjà parlé. Curo nostro donno della candeliera se sull'elio, mentre caranto zur cramola se o legno. Une belle chandeleur ensoleillée nous promet 40 jours d'hiver de plus, ce qui cette année tendrait de se manifester. Il faut quand même, pour entrer un peu plus profondément dans le sujet, se rendre compte d'une chose, que les mythologues et historiens, membres de la Société de mythologie française, ont depuis longtemps remarqué et sur laquelle ils ont travaillé, c'est qu'il semblerait que dans l'ancienne Europe qui a été romaine, mais on peut étendre ça, je pense, à tout le continent eurasiatique, de l'Atlantique jusqu'à la Sibérie, l'année agraire soit divisée, constituée, structurée, comme l'on voudra, scandée, par des périodes de 40 jours humide ou de 70 jours sec. C'est ce que Mistral avait bien exposé dans ses Memories Seracuntes et dans sa Mireille. Il parlait des quarantaines pluvieuses et des septantaines sèches. Et ces quarantaines et septantaines, n'oubliez pas que 9 fois 40 jours font 360, il manque 5 jours, les fameux 5 jours épagomènes du calendrier de l'Égypte ancienne, 5 jours en surplus qui manquent, si vous voulez, que l'on retrouve dans beaucoup de calendriers, y compris dans le calendrier Maya, en Amérique centrale, précolombienne. Ces 5 jours sans attribution permettent de compléter les 360 obtenus par la multiplication par 9 des périodes météorologiques de 40 jours. Du reste, en faisant des recherches il y a quelques années sur l'histoire du climat du Quercy, pour nourrir un article destiné à une revue locale, je m'étais aperçu qu'en météorologie, ce ne sont pas les données du mois calendaire qu'il faut observer, mais en fait, ce sont des données, alors hauteur d'eau, température moyenne minimale, température moyenne maximale, ensoleillement, qui s'étale en fait sur plusieurs semaines, à cheval souvent sur deux mois calendaires. C'est-à-dire que le vrai mois le plus chaud de l'année, c'est pas juillet, c'est quelque chose qui commence en juin et qui s'achève en août. De même, le mois le plus froid commence en décembre, s'achève en février, ou même est déporté plutôt vers février. Et ces périodes de 40 ou de 70 jours étaient articulées autour de dates clés dont on s'est aperçu qu'elles étaient en relation d'opposition calendaire entre moitié sombre de l'année et moitié claire de l'année. Ça, c'est la vieille conception gauloise, druidique, celtique du calendrier météorologique et agraire. C'est-à-dire qu'il y avait, si vous voulez, des dates d'hiver qui s'opposaient à des dates d'été au même quantième de deux mois opposés. Alors, pour dire un exemple simple, le solstice d'hiver, Noël, 25 décembre, s'oppose au solstice d'été, Saint-Jean-Baptiste, 24 juin. Autre exemple, la Saint-Vincent au 22 janvier, pour ce qui est de l'observation du temps qu'il va faire au printemps, la Saint-Vincent au 22 janvier s'oppose à d'autres observations parallèles faites pour la Sainte-Marie-Madeleine le 22 juillet. 22 juillet et 22 janvier s'opposent. Juillet et janvier sont les deux mois qui succèdent aux deux solstices. Le 22 de chacun de ces deux mois permet de faire des observations qui autorisent à établir ce que sera le temps des semaines à venir. De même, la Saint-Jacques, le 25 juillet, s'oppose à la conversion de Saint-Paul le 25 janvier. Le 1er et le 2 février, Sainte-Brigitte de Kildare le 1er février, 2 février la Chandeleur, s'oppose à la fête de Saint-Pierre-Olien le 1er août. Saint-Pierre-Olien le 1er août, qui succède à une très vieille fête druidique, panceltique, fixée par la christianisation au 1er août, la fête de Lugnasad, l'union du ciel et de la terre, qui s'oppose à la fête celtique antérieure au 1er février, d'Imbolc, Imbolc, qui veut dire le gonflement des mamelles des brebis, mais aussi le gonflement des rivières. C'est la période où dans l'Atlantique du Nord-Ouest, les fortes pluies diluviennes persistantes de février font gonfler les rivières. D'où le proverbe charentais, février remplit les fossés, mars les cure. La Saint-Blaise, le 3 février, s'oppose à l'ancienne fête de Sainte-Anne, le 4 août, et ainsi de suite. Alors, pour les chercheurs ethnologues et mythologues, on en viendrait de nos jours à vouloir étendre cette recherche à toute l'Eurasie, de l'Atlantique à la Sibérie, ce que je vous disais, de collecter, d'identifier géographiquement tous les proverbes météo dans toutes leurs formes dialectales, donc dans leur cadre écologico-climatique naturel et culturel, c'est-à-dire relier, recadrer ces proverbes météorologiques dans le système économique, technique, agraire des régions où ils ont été formulés et recueillis. Ça rejoint ce qui a été l'intuition d'un des grands africanistes du début du XXe siècle, anthropologue et ethnologue de terrain, autodidacte. Il était allemand, son véritable nom est Froben. Il avait latinisé, comme beaucoup d'universitaires allemands, son nom en Frobenius. Frobenius, c'est la mode en Allemagne. On latinise son nom quand on est dans le monde de la recherche intellectuelle et universitaire. Et Frobenius avait tenté d'identifier, d'établir un peu partout dans le monde, l'existence de ce qu'il appelait des cercles culturels, des Kulturkreise en allemand. Ces aires culturelles qui seraient constituées par différents éléments de toute nature, matériels, immatériels, techniques, économiques, religieux et autres, et qui permettraient de mettre en valeur l'existence de systèmes culturels intégrés, totaux, clos sur eux-mêmes, et propre à telle ou telle région. Ce serait des systèmes d'identification des populations dans leur espace naturel géographique. Ça rejoint les préoccupations des géographes pour ce qui est de déterminer la notion de pays et de paysage, qui est un sujet difficile et assez, comment dirais-je, fluctuant. C'est un sujet clé de la géographie humaine. Il faut savoir que, par exemple, lorsque vous venez en voiture de Toulouse à Montcuq, vous apercevez que le paysage change, mute, de façon imperceptible, tous les 10 ou 15 kilomètres. C'est-à-dire chaque fois que vous changez de canton traditionnel 19e siècle, de Châtellenie, du temps des Comtes de Toulouse. Et ces modifications dans le paysage qui s'ordonnent en grandes lignes, le fait que, par exemple, en Quercy-Blanc, le sud-ouest du département du Lot et le nord-ouest du Tarn-et-Garonne, les grandes lignes de relief descendent du nord-est du pays de Cahors vers le sud-ouest et la moyenne Garonne. Que les plateaux calcaires sont entaillés de larges vallées parfois dissymétriques, un versant plus raide que l'autre. La plupart du temps, elles sont symétriques. Les deux versants sont de même pente, si vous voulez. Avec des orientations de vallées différentes, orientation générale nord-est-sud-ouest, mais les vallées latérales elles ont une orientation d'aval en amont, est-ouest ou l'inverse, ouest-est selon la rive par rapport à laquelle on se place de la rivière principale. La Barguelonne, par exemple, à Montcuq, reçoit côté est, c'est-à-dire rive gauche, les eaux de la Nègue Vieille qui descendent de l'est vers l'ouest. En face, c'est l'inverse, les eaux descendent de l'ouest vers l'est, vers la Barguelonne. Bien, alors ces préoccupations de géographes qui rejoignent celles des mythologues et des ethnologues nous permettent de voir une chose assez curieuse dont on s'est aperçu que, pour en revenir à notre sujet de février, la Chandeleur, le 2 février, est une date clé, pivot de l'hiver, à partir de laquelle l'hiver s'apaise ou reprend vigueur. Si le jour de la Chandeleur il fait un beau temps chaud et sec, l'hiver normalement se réactive. On dit dans les Pyrénées que si l'ours sortant de sa tanière le jour de la Chandeleur, il voit le soleil, il rentre s'endormir pour 40 jours de plus. De même le loup, si le loup le jour de la Chandeleur voit le soleil, il rentre dans sa tanière pour 40 jours. Et donc cette Chandeleur, au 2 février, qui est la fête de la présentation de Jésus au temple, et 40 jours après sa nativité, c'est la fête de la purification de la Sainte Vierge. Dans le monde juif, une femme qui vient de donner naissance à un fils est impure pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, il y a une cérémonie que l'on appelle dans le monde catholique de relevaille, de purification, avec un bain au mikvé, n'est-ce pas, le bain rituel. C'est le moment où, à son 40e jour, historico-légendairement, le Christ, enfin Jésus, a été présenté au temple pour un sacrifice de rachat du premier-né, moyennant une paire de tourterelles, quand les gens n'avaient pas de moyens financiers suffisants. Alors cette Chandeleur, au 2 février, succède, je vous le disais tout à l'heure, par christianisation et par fixation dans le calendrier solaire. Il faut savoir que les Celtes avaient un calendrier lunaire à date mobile, mais la Chandeleur, au 2 février, succède à une fête celtique, la fête d'Imbolc, la fête du gonflement des mamelles et du gonflement des rivières. Elle intervient donc, elle se place 40 jours après la Noël, et elle peut ouvrir une période de 40 jours supplémentaires d'hiver. C'est-à-dire que 40 jours après la renaissance du soleil, la Chandeleur, qui est le jour des chandelles, des cierges bénis, est celle, dans le monde celtique, de la nouvelle lumière, qui, dans le monde iranien, et se place au 21 mars. La Chandeleur entre deux quarantaines nous permet d'entrevoir une fin d'hiver qui se situerait vers le 10 ou le 12 mars. C'est aussi une des périodes, c'est là que l'on rejoint la symbolique de la lumière et du feu. Février, dans nos régions, c'est le mois où fleurit l'amandier, per février fleurit l'amélier. La conversion de Saint-Paul au 25 janvier serait même la date la plus précoce de floraison des amandiers. Mais comme dit le proverbe, quand l'amandier fleurit en février, on peut n'aller récolter les amandes qu'avec un panier. Quand il fleurit en mars, il faut de pleins sacs. Finalement, la Chandeleur, l'ancienne fête celtique d'Imbolc, avec sa date opposée à celle de la Sainte-Anne, mère de la Sainte Vierge, et qui joue le rôle de vieille déesse mère, la Sainte-Anne, c'est dans le monde celtique la Dea Anna, la Dea Dana des Celtes gaéliques, c'est la déesse Dana, et ce n'est pas pour rien si en Bretagne, Sainte-Anne, l'ancienne déesse Anna, porte le nom de grand-mère des Bretons. Alors Sainte-Anne, christianisée en mère de la Sainte Vierge, joue le rôle dans l'imaginaire et la mythologie chrétienne des peuples qui ont été celtiques et qui sont encore celtophones, et des peuples du bassin aquitain qui sont plutôt des Ibères celtisés et puis romanisés. Sainte-Anne joue le rôle de l'ancienne déesse mère. Je vous renverrai aux ouvrages et aux recherches de Maria Gimbutas, Le langage de la déesse, et son ouvrage majeur et fameux, Anciens dieux et déesses de la vieille Europe. Alors Sainte-Anne, donc, au 3 août, s'oppose à la Chandeleur, je vous le disais, et le temps de la Sainte-Anne, dans les proverbes, présage à l'inverse ce que sera celui de l'hiver suivant. Alors donc, avec notre Chandeleur et notre Sainte-Anne, on voit apparaître des grandes scansions de l'année agraire qui caractérisent la vision du temps calendaire et de la climatologie et météorologie de l'année, qui était celle des populations de l'ancienne Aquitaine romaine, occitane, et des pays celtophones ou celtisants de l'Europe et de la France du Nord-Ouest. Alors dans ce cadre-là, je vous parlais donc des quarantaines pluvieuses et des septantaines sèches observées par Mistral et dont il nous parle dans ses Memories et Racontes, ainsi que dans sa Mireille. Et dans ce cadre-là, je me suis aperçu d'une chose très curieuse, c'est qu'un proverbe de Puy-l'Évêque fait référence au 2 février et non pas à la Chandeleur. Et on nous dit « Curo lu 12 de février, lu lup samago d'intre sacroso per pau de la plezzo, liber seba esperlunga mentre 40 tours de mai. » Quand le 2 février, le loup se cache dans son trou par peur de la pluie, l'hiver va se prolonger pendant 40 jours. Alors que, on nous dira ailleurs, si le jour de la Chandeleur, on se chauffe au soleil, l'hiver va durer 40 jours de plus. Donc on a là, si vous voulez, à Montcuq, avec le proverbe sur l'ensoleillement du jour de la Chandeleur qui nous annonce 40 jours de plus, on a un proverbe qui, par sa teneur et son interprétation, est exactement l'inverse de celui relevé par le chanoine Sol à Puy-l'Évêque. À Puy-l'Évêque, on nous dit que si le 2 février, on ne dit pas la Chandeleur, on se place dans le calendrier romain. Si le 2 février, le loup, animal tutélaire des Romains, se cache dans sa tanière par peur de la pluie, l'hiver va durer 40 jours de plus. À Montcuq et dans les Pyrénées, et dans tous les pays ibéro-aquitains, le loup est remplacé par l'ours. Et on vous dit que pour la Chandeleur, donc dans le temps chrétien, mais temps chrétien qui est un temps celtique, un temps christianisé, c'est l'ours qui intervient et qui est nominativement associé à la Chandeleur et au soleil. C'est-à-dire que le soleil de la Chandeleur, vu par l'ours, engage 40 jours d'hiver de plus. À Puy-l'Évêque, en vallée du Lot, c'est le loup qui, s'il voit la pluie, nous annonce 40 jours d'hiver de plus. On a donc, si vous voulez, des observations météorologiques totalement contraires. À Montcuq et dans tout le bassin aquitain, ibéro-aquitain, l'ours se chauffant au soleil, qui annonce 40 jours d'hiver de plus, et dans la vallée du Lot, c'est l'inverse. C'est le loup s'il voit la pluie. Or, il faut savoir que le loup est un animal qui, symboliquement, est lié au soleil, comme le lion. Il est lié à la lumière. Le loup, c'est l'animal qui ramène le soleil en plein cœur de la nuit du solstice d'hiver. Le fameux mythe de la messe de minuit des loups, recueilli par Jean-François Bladier dans ses Contes de Gascogne. Alors que l'ours est un animal qui, partout dans le monde celtique, est relié à la lune. C'est aussi l'animal du reste de la chevalerie noble, au même titre que le loup est aussi l'animal de la caste guerrière. L'ours, comme le loup, sont des animaux totémiques, de confrérie, initiatiques, ésotériques, de ce qu'on pourrait appeler des loups-garous, si vous voulez, des hommes, les berserkers du monde germanique, correspondant aux Luperques de la Rome archaïque. Alors les Luperques, qu'est-ce que c'est ? Dans la Rome archaïque, le 15 février, il y avait deux clans, je dirais deux confréries religieuses de citoyens romains, mais du patriciat, de la noblesse, qui se réunissaient devant le temple de Jupiter au Capitole et parcouraient les rues de Rome entièrement nues, en fouettant les matrones romaines avec la peau d'un bouc sacrifié. Et ces hommes nus, qui fouettaient les matrones romaines pour les féconder avec des fouets composés de la peau d'un bouc sacrifié, on les appelait les luperci, c'est-à-dire les loups-boucs, si vous allez par là. Ils jouent un peu le même rôle que les berserkers, les hommes ours de l'Europe germanique. On est donc là, si vous voulez, dans un monde autour des fêtes de février de la Chandeleur qui met en scène deux entités, deux figures opposées, l'ours lunaire et le loup solaire. N'oubliez pas que dans le pays de Montcuq, au Pêche de Belliqui à Saint-Donès, dans les actes notariés encore au XVIe siècle, le soleil est appelé le loup beau et que des sculptures dans l'église de Saint-Donès confirment cette interprétation. Cahors, cité des évêques, comme Puy-l'Évêque qui en était la seigneurie, était la ville des chiens et des loups. C'est la ciutat dels cans et dels urses. C'est la cité des chiens, c'est-à-dire des loups et des ours. Donc, à Cahors, l'évêque réunit les deux entités complémentaires et opposées, l'ours lunaire et le loup solaire. Il faudrait voir à ce sujet les sculptures du vieux Cahors dans la vieille ville et celles de la cathédrale. Alors, on a donc, si vous voulez, là, deux calendriers différents qui se conjoignent. Un calendrier romain non chrétien à Puy-l'Évêque, cité de l'évêque, et un calendrier celtique christianisé à Montcuq et dans tout le reste du bassin aquitain, notamment gascon, ibérique, pyrénéen. Ça se double d'autres observations qui tiennent notamment à ce que dans notre région du Quercy Blanc, un proverbe dont je vais vous parler subit de la part des locuteurs trois interprétations totalement opposées. C'est ce que nous allons voir après un petit intermède musical.
matins sombres s'éloignent et je sens frémir la terre. Elle, ma douce compagne, dans l'ombre et la lumière, cercle de feu, crêpe lunaire. J'invoque les esprits puissants, guérissez mon corps et mon âme, bénissez mes nombreux plans. Veillez sur moi, Brigitte, je vois tous tes visages en les rayons d'or du soleil. Imbolc, 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 Imbolc. Mes bras, mes deux mains, comme la petite poupée de grain, accueillons les jours nouveaux, sortons doucement du sommeil, accueillons les jours nouveaux, sortons doucement du sommeil.
Vous êtes toujours avec François Nardou depuis les studios du Boulevard dans l'émission sur les proverbes météorologiques. Alors, j'ai reçu l'assistance involontaire de Louis Vignol, le fils du découvreur des grottes de Roland, qui m'écrit dans un mail qu'il avait relevé quelques dictons qu'il m'envoie en occitan phonétique, souvent entendus de ses parents et des voisins. Alors, le matin, au printemps ou en été, il disait « Brumo de cumbo, butote all'ombro ». Il a interprété ceci, il va faire chaud et, me dit-il, je puis vous assurer que je l'ai souvent constaté. Au contraire, quand la brume était sur les hauteurs, sur les coteaux, on disait brume del pech, d'amour ou allette, brume de hauteur, reste au lit, car, interprétait-il, il va pleuvoir, et là aussi il l'avait souvent constaté. Or, il se trouve que une de mes voisines, originaire de Creissens, commune du Boulevard, et occitanophone courante, m'avait appris le proverbe d'une façon légèrement différente. Elle me disait ceci. Brumo de cumbo, d'amuro all'umbro, certes, mais elle l'interprétait différemment. Et elle me disait, elle complétait, brumo del pech, tirote del leit. Brume sur les hauteurs, au contraire, enlève-toi du lit, c'est-à-dire va travailler. C'est-à-dire que pour ma voisine, les brumes matinales de printemps et d'été sur les hauteurs laissaient présager un beau temps propice au travail. Et de même à Montcuq. Alors que, par exemple, à la Bastille de Marnac, à Saint-Rémy, aux confins extrêmes vers Cahors de l'ancienne Châtellenie de Montcuq, en cas de brume sur les hauteurs, on disait « brume del pech, d'amuro a leit ». Brume sur les hauteurs, reste au lit. C'est pas la peine de se disposer à travailler, il va pleuvoir. Mais on l'interprétait « va faire un beau temps chaud, mais pénible à supporter. Une chaleur de calimace, de grosses chaleurs lourdes qui rendent le travail dur. » J'en concluais que, à Montcuq et au Boulevard, c'était donc une interprétation des brumes de combe laissées présager un beau temps chaud rendant le travail difficile à supporter, alors que, à la Bastille de Marnac, des brumes de combe annonçaient des pluies diluviennes. Voyez-vous, on avait deux interprétations différentes, même phénomène, brumes de combe. C'est ce qui m'avait du reste intrigué, parce que je m'étais rendu compte que, vous savez que la Bastille de Marnac est sur une hauteur de Cosse, avec très peu de combe, beaucoup de pêche, et qu'elle n'est pas très loin d'un site connu qui est Granuet-Jouls, un lieu de hauteur, sous le patronage de l'Assomption de la Vierge, et d'où l'on peut voir au sud des Pyrénées et au nord le Puy-de-Dôme. On est donc là, quoique dans l'ancien pays de Montcuq, dans des régions qui, par leur géographie, leur géomorphologie, et même leur microclimat, se différencient, s'individualisent et prennent des tonalités différentes. Alors, Louis Vignol m'avait rapporté également d'autres proverbes. Il s'était rendu compte, en gardant ses troupeaux sur l'Écosse de Roland, que lorsqu'il voyait la fumée du haut fourneau de fumelle monter droit dans le ciel, la pluie allait arriver. C'est de nos jours la même observation et la même interprétation que font les gens lorsqu'ils voient les panaches de vapeur d'eau monter au-dessus des cheminées de Golfech. On a donc, si vous voulez, là, des observations locales de gens qui sont en rapport direct avec les choses de la nature et qui leur permet, en quelque sorte, d'établir eux-mêmes leur propre météorologie quotidienne. Un autre proverbe que j'ignorais totalement, que m'apprend Louis Vignol, « Arcano de la matinado, tiro lo bouillé de la rado », c'est-à-dire « arc-en-ciel du matin », tire, enlève le bouvier du labour. C'est-à-dire, l'arc-en-ciel du matin signifie au bouvier que la journée va être pluvieuse, qu'il n'est pas nécessaire de se mettre à labourer. Et inversement, arcano del ser, arc-en-ciel du soir, ne fait de mal à rien, fa de mal a res. C'est-à-dire, l'arc-en-ciel du soir promet un lendemain ensoleillé. Alors, ces observations locales, certes, s'interprètent ou peuvent se comprendre en relation avec les phénomènes de la climatologie et de la météorologie locale prédéterminé par l'orientation générale de notre relief, ce qui nous amène maintenant à parler de phénomènes naturels ou culturels qui caractérisent la météorologie du Quercyblanc. Alors, je vais vous parler des phénomènes dominants qui impressionnent particulièrement les populations et leur imaginaire. Les orages, d'abord. Il est connu que Mont Lauzun, par sa butte élevée, tronc conique, séparerait les masses d'air orageuses, en protégerait Montcuq. C'est intéressant quand on sait que le site de Mont-Lauzun aurait très bien pu être choisi par les comtes de Toulouse comme siège de leur pouvoir dans le Quercyblanc et, comment dirais-je, recueillir les fonctions attribuées par les comtes de Toulouse au site de Montcuq. Un autre phénomène géographique important, on dit géomorphologique, c'est l'axe de la vallée du Lot. La zone des Cosses, entre la Barguelonne et la vallée du Lot, en quelque sorte, ces Cosses holténiens qui séparent même la vallée du Lot du versant garonnais attireraient les orages et les pluies diluviennes vers la vallée du Lot. On aurait donc un phénomène géographique, géomorphologique, un phénomène de relief qui aurait un effet sur le temps qu'il fait à certaines saisons de l'année, lorsque les phénomènes atmosphériques se localisent. Comme l'on dit, les orages sont toujours très localisés. Il est curieux du reste de voir que l'ancienne voie romaine au nord de la vallée du Lot a de nos jours pour parallèle au sud la grande voie Cahors, Villesèque, Sauzet, Tournant d'Agenais. Ces deux grandes voies encadrent, si vous voulez, le bassin de la vallée du Lot qui attire à lui les pluies venant de l'océan Atlantique et du golfe de Gascogne par la Garonne. Un autre phénomène est particulièrement perceptible par les populations, c'est celui des vents, les vents dominants, dans la perception qu'en ont les gens. Alors le vent dominant dans la région le plus marquant, c'est le vent d'Otan. Mais vous avez d'autres vents, beaucoup moins, comment dirais-je, observés par les populations, c'est le vent de nord, la Sisampo, nom totalement inconnu des gens du pays, qui parle de Ben des Nord, alors que le véritable nom est Sisampo, qui vient du latin tardif Cisalpa, qui désigne le vent qui vient des Alpes. Le vent d'Hyperborée des anciens, le vent qui vient d'au-delà du vent du nord, en quelque sorte, d'au-delà du nord, au-delà de l'arc alpin. Un autre vent qui est connu par les textes occitans médiévaux, c'est le vent de nord-ouest, sous le nom de Ben de Galerno, la Galerne, qui en fait désigne, c'est assez compliqué, ça désigne l'Irlande en fait, voilà. Mais l'Irlande en tant que vaste plaine, grasse, fertile, riche, abondante en tout bien. C'est la plaine de l'ouest, c'est le pays de l'ouest, c'est le pays des bienheureux, c'est la terre de promission, où vivent les bienheureux trépassés. Et ce vent de Galerne, qui est aussi le vent du mois de décembre, le vent du mois nègre, c'est le vent mauvais de nord-ouest, qui vient de la section de l'horizon où le soleil ne descend jamais. C'est le pays des morts. Alors le vent de nord-ouest, le vent du pays des morts, souffle particulièrement aux dates clés de l'année où les morts sont censés revenir parmi les vivants, c'est-à-dire Toussaint, 11 novembre, période des 12 jours entre Noël et le jour des rois, notamment et aussi, surtout mois de décembre. Alors que le vent, la Sisampo, dont je vous parlais tout à l'heure, est un vent de nord-est qui vient d'au-delà du nord. Il vient de l'ancienne Hyperborée des anciens, qui était le séjour hivernal d'Apollon Delphien, d'Apollon de Delphes. C'est curieux parce que j'ai connu, étant enfant, une poétesse locale, directrice d'école primaire dans le Limousin, et qui écrivait des poèmes d'un ton et d'un style très académique. Et je me souviens d'un de ses vers qui est en rapport avec les fameuses offrandes d'épis de blé apportées à Delphes par les prêtresses vierges hyperboréennes, lorsqu'Apollon revenait à Delphes au mois de mars. Et ce vers qui m'est resté dans la mémoire et qui me revient, couronne d'épis blonds sous le soleil ardent. Cette dame est bon, disparue de nos jours, je peux la citer. Quant au vent de Galerne, la Galerne, vraiment le nom est inconnu des gens du pays, mais c'est, je vous dis, c'est le vent d'Irlande. Alors que, un vent opposé, le vent d'Est, en fait de Nord-Est, le Cantalès, c'est le vent du Cantal, mais c'est le vent d'Auvergne. Et il faut voir que dans nos régions, surtout l'hiver et en période de temps froid, de descente d'air froid lourd, anticyclonique, on appelle ça des vents catabatiques, des vents qui descendent des hauteurs d'Auvergne vers les zones de la Garonne moyenne, vers les vallées chaudes et humides de la moyenne Garonne. À ce moment-là, le Quercy blanc se trouve en quelque sorte à mi-chemin, comme un peu le fléau de la balance, entre les températures très basses de la région d'Aurillac et les températures plus clémentes de la région agenaise. Et dans le pays, dans l'imaginaire des gens du pays, c'est interprété, comme me disent souvent les gens, il ne faut pas oublier qu'ici, lorsqu'il fait froid l'hiver, nous sommes sous l'influence de l'Auvergne, ce qui rejoint ce qu'a été la situation géopolitique du Quercy pendant toute la période d'avant la conquête romaine et ensuite à la fin de celle-ci, lorsque le pays du Quercy était sous la dominance des Arvernes, du pays de ce qui est de nos jours Clermont-Ferrand, Aurillac. On aurait donc là, si vous voulez, un héritage historique qui se maintiendrait encore dans les mémoires à travers l'impression que lorsqu'il fait froid, ce froid nous vient de l'Auvergne. Alors que le vent d'Autamne, par contre, l'autre grand vent, lui nous amène la chaleur et aussi la pluie. Alors le vent d'Autamne est connu dans nos régions, c'est une des trois figures dominantes du ciel du bassin aquitain avec les Pyrénées et l'Atlantique du golfe de Gascogne. Le vent d'Autamne, le ben d'Auta, qu'on appelle le ben des Plezzo, souffle particulièrement lorsqu'on s'aperçoit que les Pyrénées sont claires. Et on dit ceci, « Montagnos claros, Bordeaux escur, Plezzo al sicur, Pyrénées bien dégagées, Bordeaux sombre, pluie pour de sûr. » Et cela se produit lorsque le vent d'Autamne se met à souffler, venant du golfe du Lion, de la Méditerranée. C'est la continuation asséchée du vent marin qui souffle sur le Languedoc. Et ce vent d'Autamne, ce vent fou, qui peut parfois suivre la course du soleil dans le ciel, ce vent d'Autamne, au fond, qu'est-ce que c'est? L'Uben d'Auta. Comme dit le proverbe, « Da Pascos cap a San Juan, la plezzo ben dal Leban. » De Pâques à la Saint-Jean, de Pâques au solstice d'été, la pluie vient du Levant. Donc le Levant, c'est l'origine du vent d'Autamne, puisque c'est à ce moment-là, de Pâques à la Saint-Jean, c'est le vent d'Autamne qui amène la pluie. 60% des hauteurs d'eau annuelles nous tombent dessus entre Pâques et la Saint-Jean. Alors ce vent d'Autamne vient du Levant. Le Levant, c'est l'Orient, c'est le lieu des origines. En gaulois, en celtique, c'est ce qui est devant, c'est le passé, c'est les origines du monde. C'est ce qui est à l'est. Donc pour les Carcinoles, c'est pour tous les Aquitains, le soleil naît en Méditerranée, d'où vient le vent d'Autamne. Le soleil, en quelque sorte, et le vent d'Autamne ont la même origine. C'est la mer d'où émerge le soleil. Songez au tableau de Botticelli, la naissance de Vénus. Vénus surgissant des eaux, portée par une conque. Conque qui est absolument la coquille de Saint-Jacques de Compostelle. Conque qui a la forme d'un éventail, hémicirculaire, dont le bouton central figure le point de naissance du soleil. Le soleil naîtrait donc au centre de la base de l'éventail radiant, qui forme la conque de la coquille de Saint-Jacques. Le soleil naîtrait, si vous voulez, avec Vénus, sur la mer orientale de la coquille de Saint-Jacques. Il se coucherait ensuite à l'ouest, au ponant, à l'endroit qui était indiqué dans notre toponymie, par exemple, par le nom de Saint-Martin-d'Erne, paroisse disparue de la commune de Saint-Laurent-l'Olmy. Erne, Erin, c'est la même idée, c'est l'Occident du monde. Et ce motif de la coquille de Saint-Jacques solaire, la conque solaire, orne de nombreuses fenêtres du Quercy haut et bas, du reste, comme l'avaient montré différents articles publiés dans la revue Quercy Recherche. On s'aperçoit donc, si vous voulez, il y a là toute une question de climatologie, de relief, mais qui sont aussi l'héritage de climats disparus. Songez un peu à une chose qui est facile à observer quand on fait beaucoup de vélo. Les vallées du Quercy blanc, je vous le disais tout à l'heure, sont souvent symétriques. Les deux pentes, les deux versants ont la même pente, sont aussi pentus l'un que l'autre. Mais dans certains cas, en pays de Montcuq, c'est très net, on s'aperçoit que certaines vallées ont des versants dissymétriques. C'est le cas de la vallée de la Nègrevieille au sud de Montcuq. Le versant exposé plein sud est très raide. Le versant exposé plein nord, lui, est très mou, très doux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des vents dominants, apportant de la neige à l'époque du dernier âge glaciaire, des vents dominants passaient par-dessus les versants de nos jours raides et déverser la neige sur les versants de nos jours très mous et très doux, très longs. Ces versants étaient protégés sous d'épaisses couches de neige. Lorsqu'elles fondaient, il se produisait des phénomènes de ruissellement, de solifluxion, de colluvionnement, d'où les replats demi-versants. Alors qu'inversement, les versants exposés plein sud, par-dessus lesquels passaient les vents porteurs de grosses neiges, de grosses pluies, ces versants restaient dégagés. Donc ils étaient soumis à l'alternance des gels nocturnes et des dégels diurnes. Ces versants étaient, comme on dit, gélifractés. Ils étaient travaillés par le gel, les roches s'éboulaient, le sol devenait plus friable. Et de ce fait, le ruissellement d'érosion était plus actif. L'érosion était plus active et les versants devenaient beaucoup plus raides. Et c'est en faisant du vélo que je m'en suis aperçu. La géographie, tous les bouquins de géomorphologie et de géologie du sud-ouest le confirment. Alors ces vallées dissymétriques donc, sont un vieux témoin, un vieil héritage de climat totalement disparu, mais qui ont modelé le paysage actuel. Et il y aurait donc, si vous voulez, une corrélation entre nos paysages et un climat complètement disparu. Est-ce qu'il en sera de même de la perception qu'ont les carcinoles anciennes du 19e et du 1er 20e siècle, de la perception qu'ils avaient de leur pays et de leur paysage par rapport au climat qui est le leur? Est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité de constituer un atlas linguistique et ethnologique des proverbes météo, de corréler les aires dialectales, les formes et le sens des proverbes avec des aires ethnoculturelles? C'était le projet de Léo Frobenius, ce fameux chercheur allemand dont je vous parlais au début de l'émission, c'est son projet sur l'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, nous avons donc là maintenant vu ce qu'on pouvait dire de façon très superficielle de la météorologie et des proverbes du mois de février. Nous nous reverrons en mars, où il sera question nécessairement d'autre chose. Nous n'allons pas toujours revenir sur les mêmes ornières. Ce serait le cas à cette saison. Et d'ici là, j'espère que vous vous porterez le mieux possible et que nous pourrons nous revoir dans les meilleures conditions qu'il soit. Donc à bientôt, toujours aux mêmes heures. Mardi 11h, samedi 18h, seconde et quatrième semaine de chaque mois.
On dit que les vacances, c'est un réel bonheur, qu'on a bien de la chance de quitter le labeur. C'est une théorie, un merveilleux tableau, mais je vous avertis, attention la météo. Nouvelle entre deux vents, épiphanie c'est tout gris, mardi gras glac 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 glac, les rameaux pas chaud chaud, pas que dans les flaques, février on est bronzé, mois de mai, plus nugué, ascension, les grêlons, en juillet les giboulées, la Toussaint en maillot de bain. Ah dis donc, y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé, y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé. Ah dis donc, y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé, y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé. J'adore les vacances, holiday, mais je reste chez moi. C'est une invraisemblance, j'en conviens quelquefois. Réserver un séjour à l'hôtel, c'est pas très compliqué, mais s'il pleut tous les jours, on n'est pas remboursé. Nouvelle entre deux vents, épiphanie c'est tout gris, mardi gras glac 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 glac, les rameaux pas chaud chaud, pas que dans les flaques, février on est bronzé, mois de mai, plus du guet, ascension, les grêlons, en juillet les giboulées, la Toussaint en maillot de bain. Ah dis donc, y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé, y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé. Ah dis donc, y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé, y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé. Si on part se baigner sur la côte d'Azur, on va pour se tremper, il neige ça c'est sûr. On part à la montagne pour surfer ou skier, c'est Noël à la plagne, mais y'a que des rochers. Nouvelle entre deux vents, épiphanie c'est tout gris, mardi gras glac 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 glac, les rameaux pas chaud chaud, pas que dans les flaques, février on est bronzé, mois de mai, plus nugué, ascension, les grêlons, en juillet les giboulées, la Toussaint en maillot de bain. Ah dis donc, y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé, y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé. Ah dis donc, y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé, y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé. Je ne sors plus jamais, je mets plus le nez dehors, plus besoin de m'habiller, je reste au lit, je dors, je fais des économies, je te donne un conseil.
Ami,
oublie le parapluie, chez toi il fait soleil.
Nouvelle entre deux vents,
épiphanie c'est tout gris.
Mardi gras, gla 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 gla,
les rameaux pas chaud chaud.
Pas que dans les facs, février on est bronzé.
Mois de mai,
plus du gué,
ascension,
les grêlons.
En juillet les giboulées, là tout ça en maillot de bain.
Ah dis donc y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé.
Y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé.
Ah dis donc y'a plus de saison, tout ça c'est tout chamboulé.
Y'a plus d'hiver, plus d'été, c'est tout chamboulé.
Ouais.